Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Alors souvenez-vous, c'était le 1er janvier 2015 au matin, nous nous étions demandé à qui penser en ce début d'année 2015, il y a 6 mois, et que souhaiter et à qui, que souhaiter à l'autre et à soi-même. 7 jours plus tard, c'était le chaos et la catastrophe que l'on sait avec les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher et l'actualité qui a continué à en bouleverser toute cette année-là et qui ne la mettait pas sous le signe de la quiétude que nous pensions lui donner ce 1er janvier 2015. Eh bien, nous avions d'ailleurs demandé et emprunté au philosophe Frédéric Worms cette idée de penser à quelqu'un, penser à l'autre, dit Frédéric Worms, c'est aussi penser à soi-même, et penser à soi-même, qui sait, c'est aussi penser à l'autre. Eh bien, pour terminer cette saison des Matins de France Culture, nous avons voulu boucler cette boucle en continuant au fond de travailler sur cette question, de penser à quelqu'un, et nous avons eu envie de penser aux migrants, à ceux qui sont là autour de nous, qui se lèvent peu à peu, qui dorment encore certains, ils ont bien du courage avec le raffut qu'on fait par moment en arrivant ici, mais nous avons voulu donner cette parole aux migrants, parce qu'après tout, il est bien de commenter avec fort et main spécialiste la situation des migrants, mais peut-être est-il aussi possible et qu'on peut tenter de leur donner la parole s'ils souhaitent en tout cas la prendre. Alors voilà, nous sommes avec des migrants, pardi rue Pajol, et non pas à Lampedusa, mais bien à Paris, dans le 18e arrondissement, au milieu de quelques matelas et d'installations, une cantine, sécurité, je vois un accueil, un panneau avec des cours de français, une petite tente de fortune, et puis des gens, ça et là, qui se réveillent peu à peu. Il faut que je précise aussi que nous sommes en compagnie de Patrick Veil, qui publie Le sens de la République. Ah ben oui, parce qu'au fond, quelque chose nous intéressait, nous, dans cette idée de la République, liberté, égalité, fraternité. La liberté, elle n'est pas facile forcément à atteindre pour tout le monde. L'égalité, ça se discute beaucoup, alors que la fraternité, c'est peut-être le moyen le plus simple et le plus immédiat de pratiquer la fraternité dans ces trois mots qui donnent le sens de la République. Pourquoi ce titre, Le sens de la République, Patrick Veil, historien, chercheur et spécialiste de toutes ces questions d'immigration?
Parce que après justement les horribles attentats de janvier, après les quelques jours de ferveur et de deuil national que nous avons vécu et d'émotion, on a bien vu que le pays se redivisait et que les gens se remettaient dans des sortes de cases avec des préjugés, avec des divisions. Et moi j'ai voulu, dans un livre court et précis,
très pédagogique,
un peu faire tomber ces barrières, parce que les faits font tomber les préjugés, le rappel des faits font tomber les préjugés et les barrières, et quand on les connecte, ces faits, eh bien on s'aperçoit qu'il y a quand même, malgré ce qui a toujours existé, des préjugés, du racisme, de l'antisémitisme, mais il y a eu quand même des discriminations institutionnelles, on a eu l'esclavage, la colonisation, Vichy, etc. Mais il y a des valeurs qui ont travaillé la société française dans son histoire et qui ont fini par triompher. Et c'est ces valeurs qui sont dans le triptyque de notre devise. Mais il faut voir, par exemple, je pense à la devise de la liberté. Bon, même du temps de l'esclavage, donc il y avait des Français propriétaires d'esclaves dans les colonies, quand un bateau arrivait dans un port de métropole et qu'il y avait des esclaves, ils étaient libérés. Parce qu'on la justice ne tolérait pas l'esclavage sur le sol de France. Donc, les propriétaires perdaient leur propriété d'esclaves, ces esclaves étaient libres. Donc, il y a une tradition qui remonte à avant la République, que sur le sol de France, il y a la liberté. Vous voyez, c'est des choses qui sont intéressantes à rappeler.
Absolument. Et nous voulons nous rappeler la question justement de la fraternité. Tenez, vous la connaissez, la jeune femme qui est en face de vous, parce qu'elle est sociologue, mais elle a travaillé sous votre direction. Karen Akoka, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez toutes les casquettes, vous. Hein, vous avez toutes les casquettes. Maître de conférence en sciences politiques à Paris-Ouest, Nanterre. Bon. Chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique. Bon. Thèse sur l'OFPRA. Voilà. Présente beaucoup à Pajol à plusieurs titres. Riveraine, membre du GISTI, et donc, je le disais, chercheuse. Vous cumulez tout, et au nom de quoi et pour quelle raison? Est-ce qu'il y aurait peut-être une petite raison liée à la question de la fraternité dans l'histoire?
Évidemment, il y a la fraternité dans l'histoire, mais bon, on est tous constitué, pluriel, fait de plusieurs choses. Et moi, si je travaille sur les questions de migration, c'est pas non plus par hasard. Et souvent, les chercheurs, quand ils travaillent sur une question, ça a un sens par rapport aussi à leurs histoires, à leurs choix politiques, voilà. Et donc, au fond, ça peut s'expliquer comme ça, toutes ces casquettes, c'est cette rencontre-là entre un objet de recherche et des intérêts personnels.
Ouais, parce qu'on va le dire, vous êtes ce qu'on appelle ici, parmi les soutiens de ces migrants. Alors, on peut être à la fois sociologue sur l'immigration, sur les migrants, et soutien, certains appellent ça comment, de la sociologie participante ou de non?
Mais écoutez, c'est à la fois un bonheur et c'est à la fois très difficile. C'est difficile parce que tout le travail quand on est chercheur, c'est de se poser des questions autrement que de la manière dans laquelle la société se pose. Donc
faire tomber les barrières, disait Patrick Veil.
Tout à fait, faire tomber les barrières, mais aussi reformuler les questions. Et même quand on est militant, de mon point de vue, on se pose de bien meilleures questions que quand on ne l'est pas. Mais c'est encore une autre manière de formuler les questions qui ne sont pas des questions qu'on se formule quand on fait de la recherche. Et c'est aussi quand on fait de la recherche, il y a la nécessité d'une certaine distance qui n'est pas toujours compatible avec l'émotion que ça représente d'être sur le terrain avec des gens avec qui on a envie d'être solidaire. Donc moi je pense que cette proximité, elle est pas incompatible avec la recherche, pas du tout. C'est important de mettre de sa subjectivité dans la recherche, mais il faut savoir la placer à un endroit pour la rendre productive, et voilà. Et ça, c'est toute cette difficulté-là.
Alors, faire tomber les barrières, nous, c'est une idée qui nous plaît bien. C'est un peu aussi, au fond, ce que se propose de faire la radio, en général, créer du lien, faire tomber les barrières. Cela dit, tout ne va pas forcément quand même de soi. On ne va pas dans un camp de migrants comme on irait à la plage. C'est presque le festival de Cannes, si j'ose dire, pour l'État qui n'est un petit peu, c'est compliqué. Grâce à Raphaël Kraft, qui est reporter et qui travaille souvent avec nous à France Culture et sur notre chaîne du groupe Radio France. Bonjour Raphaël.
Bonjour Marc.
Vous nous avez ici introduit, proposé, et en fait notre venue a été acceptée parce qu'elle a été votée et débattue, Raphaël.
Oui, c'est une communauté autogérée ici, avec des migrants qui ont le dernier mot généralement, des militants, des bénévoles, des riverains. Et donc, quand il a été question de faire venir, enfin que vous veniez ici à la Halle Pajol, la question a été débattue pendant une demi-heure à l'Assemblée Générale, mercredi soir.
Alors, on n'écoute pas la demi-heure entière, mais un extrait de son pris par vous lors de cette Assemblée.
Pour ceux qui souhaiteraient que à cette émission participent des soutiens et des migrants, sachant que dans la mesure où il y a eu quelques oppositions, on pourrait faire une proposition de consensus où on dirait que majoritairement les migrants participeraient et qu'il y aurait une minorité de soutien. Est-ce que cette proposition pourrait faire consensus entre nous?
Donc ils sont d'accord pour que, j'aurais compris qu'ils sont d'accord pour qu'il y ait une émission de radio ici vendredi matin pour le direct. Et là, ils viennent de dire, effectivement, ils acceptent l'idée que c'est une majorité de personnes migrantes qui participent, en tout cas, qui donnent...
Et voilà, ainsi donc, l'accord était voté pour que nous soyons ici ce matin. Et nous y sommes, Patrick Veil, Karen Akoka, Raphaël Kraft. Moi, je suis frappé par quelque chose quand on arrive ici. Bon, l'installation des matelas, ces campements de fortune pour dormir la nuit, un bout de cantine improvisée, on y sera dans quelques instants pour prendre le café. Mais surtout, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que quand on passe le bout du trottoir, on se retrouve devant un petit arbre, un petit guichet, où en gros, il y a marqué « accueil ». Pour des gens qu'on accueille mal quand même. Vous trouvez pas ça étrange, ce mot accueil là, qui est là, en pleine rue, destiné sans doute à signaler aux migrants qui veulent savoir davantage comment se faire soigner, comment faire les démarches d'asile et autres, mais qui est ce mot accueil ici, écrit en gros?
Il y a des livres. Allez-y, décrivez. Je vois tout de suite, là, il y a Pascal, les pensées de Pascal sur la table. Il y a Stéphane Zweig.
Et les illusions perdues.
D'Honoré de Balzac, donc c'est aussi un accueil...
Et le guide des parcs et jardins de Paris, c'est précieux quand on est migrant, sans doute.
Je trouve que c'est quand même très significatif. Il y a plus ça qu'autre chose que sur la table, des livres.
Et je crois aussi que ce mot accueil, c'est important parce que c'est là pour dire en creux tout ce qui ne se fait pas en dehors de cet espace-là.
Enfin, plus qu'en creux, hein, c'est clair et net, on le voit.
Et donc voilà, ça vient ici signaler que les gens qui sont ici, les migrants comme les soutiens, ils sont là à la fois pour accueillir les individus qui sont ici concrètement et à la fois aussi au-delà de ceux qui sont ici, pour passer un message plus fort à quelque chose qui manque, non pas dans ce lieu précis, mais dans l'ensemble des politiques migratoires de ce pays.
Alors ça, bien sûr, ces questions de politique migratoire, nous y reviendrons. Je voudrais qu'on continue la photographie sonore de ce lieu avec vous, Karen Akoka, Patrick Veil. Peut-être, Karen, dites-nous alors, nous sommes en présence là autour de nous et nous espérons qui vient d'en parler. En même temps, il faut les laisser se réveiller peut-être. Mais bon, nous sommes avec qui ? Des Érythréens, des Soudanais, quelques Libyens, quelques Tunisiens ?
Il y a une majorité de Soudanais qui sont ici, mais pas loin, à côté, il y a des Érythréens, des Éthiopiens et encore d'autres nationalités.
Leur présence ici, on peut dire qu'elle a été mouvementée, hein, d'aller et venu de lieu à l'autre dans Paris.
Oui, ça doit être le quatrième ou cinquième lieu, hein, huitième lieu. En à peine un mois, donc soit ils ont été poussés de manière très violente par la police, soit d'une manière un peu plus douce par ce qu'on pourrait appeler l'humanitaire sécuritaire, où on leur a proposé des chambres d'hôtel pour une ou deux nuits, donc qui permettaient de les éparpiller sans régler la solution, sans régler le problème, et puis donc ils sont finalement revenus.
Oui, le camp dit du métro La Chapelle s'est créé à l'été 2014 et petit à petit on est arrivé à près de 400-500 personnes qui campaient sous le métro La Chapelle, lequel a été évacué le 2 juin avec promesse de relogement de la mairie de Paris et de la préfecture de police, des relogements précaires puisque après quelques jours il y avait beaucoup de migrants de retour à la rue, donc ils se sont ensuite... Dès la première nuit, ils ont une cinquantaine à coucher sous le métro. Ensuite, ils se sont installés à la salle Saint-Bruno, puis sur le parvis de l'église Saint-Bernard, d'où ils ont été expulsés, dispersés. De Saint-Bernard, ils sont allés à Pajolles le 5 juin.
Où nous sommes.
Expulsés le 8 juin au Bois d'Ormois, qui est un jardin partagé juste derrière. Du Bois d'Ormois, ils sont allés à la caserne de Château-Landon, d'où ils ont été expulsés. De Château-Landon, ils sont allés au jardin des Halles, d'où ils ont été évacués le 19 juin. Et puis, retour à Pajolles, donc on pourrait appeler ce camp Pajolles 2.
Patrick Veil, vous qui avez été proche à un certain moment de ce qu'on appelle les autorités dans ce pays, le ministère de l'Intérieur, les politiques de l'Intérieur, comment on décide, au fond ? Et il n'y a pas de malice dans ma question. Les moments où on se dit qu'il faut, par la force, déplacer des gens qui sont là parce qu'ils ont fui, pour les Érythréens, on le sait, les Soudanais, des régimes qui ne leur sont pas favorables, pour dire ça sous forme de litote.
Je crois que c'est un système. Je ne crois pas que c'est... Bon, c'est un système, il faut le comparer pour le comprendre à d'autres pays. Aux États-Unis, les demandeurs d'asile sont mis en prison, dans des prisons aussi dures que tout ce que peut être une prison américaine, avec des vêtements de prisonniers, jusqu'à ce que leurs, y compris les enfants et les mères, donc ils ne seraient pas dans la rue. En Allemagne ou en Suède, ils sont accueillis, répartis et sont traités tout à fait différemment. Alors en France, on ne les met pas en prison. Mais on ne les accueille pas dans une organisation qui permet d'assurer leur dignité jusqu'au moment où la décision est prise. Donc il y a quelque part.
Et comment ça se fait ça ?
Alors moi, je l'explique. Je dirais bon, on peut dire toujours il n'y a pas assez de moyens, etc. Mais je crois que c'est une forme de dissuasion, parce que la France n'est pas en ce moment extrêmement généreuse à l'égard de la demande d'asile. Donc on se dit, eh ben on les met pas en prison. On les laisse là, et puis on les bouscule jusqu'à ce qu'ils finissent par aller chez nos voisins, où finalement ils seront mieux traités, et donc comme ça on voilà. Je pense que tout ça n'est pas, je veux dire, c'est du bricolage, mais c'est un bricolage qui a un certain sens par rapport à la politique actuelle vis-à-vis de l'asile.
Karen Akoka.
Et pour continuer la comparaison avec d'autres pays, moi je voudrais quand même juste rappeler que le taux d'acceptation au statut de réfugié en France, c'est de environ 17%, la moyenne européenne, elle est de 45%. Donc si on prend certaines nationalités très emblématiques, comme par exemple les Érythréens, en France il y a autour de 20% des Érythréens qui ont le statut de réfugié, c'est presque 100% en Suède. Si on prend les Soudanais, il y en a 75% qui ont le statut de réfugié en Angleterre. c'est 25% ici. Donc il y a vraiment...
Et pourtant, le sens de notre République, Patrick Veil, liberté, égalité, fraternité.
Non, et puis l'asile est un des principes fondamentaux de la République. Ça a été dit par Édouard Herriot à un moment, même... à la fin des années 30, quand, d'ailleurs, à la fin des années 30, il faut toujours refaire notre histoire. Bon, on a l'arrivée massive de réfugiés espagnols. Alors, ils n'ont pas été très bien reçus. Enfin, quand on regarde le nombre, à l'époque, c'était 500 000 personnes. C'était quasiment, vous voyez, ça aurait, par rapport à la population d'aujourd'hui, ça aurait été, imaginons qu'on reçoive 2 millions de personnes ou 1 500 000.
C'est beaucoup plus que les 137 000 migrants qui ont franchi la Méditerranée cette année.
Enfin, c'est beaucoup plus. Ils ont été pas très bien reçus, mais ils ont quand même été reçus dans des camps de fortune, etc. Et la République a fait son travail, je dirais, dans des conditions très difficiles, beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui, jusqu'au bout, dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Donc je pense qu'on aurait les moyens d'être plus correct du point de vue de notre politique de l'asile.
Alors, puisqu'on est toujours à l'accueil, on n'a pas fini d'écrire les panneaux, on voit que tout est prévu pour essayer au mieux d'imaginer quelle vie future ici les migrants auront. Il y a les panneaux for asylum seekers et une marche à suivre. You need a letterbox. We'll have a meeting pour aller à la préfecture. Et puis il y a aussi l'adresse de l'OFPRA, le téléphone à Fontenay, le tout traduit aussi en arabe. Et puis on voit, regardez, si vous avez besoin de parfaire votre français, Patrick Veil, qu'il y a des cours de français ici, voilà, à 14h, 16h, 18h, avec le bienvenu dessous. Je voudrais qu'on se retourne vers Louison qui est avec nous. Mais oui, je vous ai oublié, Louison, c'est terrible, mais vous voilà. Parce que Louison nous accompagne pour cette dernière aussi de la saison. Alors, le dessin de Louison. On a dit qu'on ne ferait pas de clochette, hein, parce qu'on voulait pas trop semer le désordre non plus.
La clochette n'avait pas trop lieu d'être ici, mais j'ai quand même fait un dessin dans un petit coin. J'ai représenté la République sous sa forme comme ça allégorique du buste de Marianne. Je me suis interrogée sur savoir si la République était défaillante ou pas dans ces cas-là. J'ai un petit doute aujourd'hui. Et donc le buste dit tant qu'on me représentera sous la forme d'un buste, je resterai les bras ballants. Voilà.
Alors les bras ballants, tout le monde n'est pas les bras ballants ici. Je voudrais arriver au coin qu'on appelle le coin cantine, mais il ne va pas être content que je l'appelle comme ça. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Vous êtes un des soutiens, vous, ici, hein, de ces migrants. Oui. Un riverain.
Un riverain également.
Et comment s'improvise-t-on et s'organise-t-on soutien? Et à quel moment?
Ça dépend. Il faut le déjà créer. Au départ, il y a des gens du quartier qui commencent à voir de cette misère-là. Donc chacun, c'est ce qu'on appelle de bouche à bouche.
Et qu'est-ce qu'on fait, pratiquement? Comment on organise? Comment on fait à manger pour 60 personnes? Comment?
Pour vous dire, plus que 60 personnes, 180 personnes.
Là, ils sont 180 là en ce moment? Ah bon, on était loin du compte, oui, tout à l'heure. L'idée, c'est quoi? C'est à la fois de leur apporter à manger, de les nourrir, mais aussi, m'avez-vous dit en préparant cette émission, un aspect très important qu'on n'imagine pas forcément, la question de la sécurité. Hein. Après tout, dormir dehors, ça n'est peut-être pas si tranquille que ça quand même.
Non, mais quand je dis sécurité, sécurité même après qu'ils se lèvent, tout le monde se lève. C'est essayer d'avoir une harmonie entre eux, déjà, parce qu'il y a quelques tensions de temps en temps, ce qui existe dans tous les groupes. Hein, et à partir de là commence la sécurité aussi.
Et parce qu'il y a des risques aussi d'agression extérieure. Enfin, il n'y a pas que la police, hein, si j'ose dire.
Non, des petits risques entre eux. Ça existe.
Et donc, il faut pacifier, être attentif.
Tout à fait. Hein, si on ne pacifie pas, c'est ce qu'on appelle le désordre après.